Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 19 janvier 2018, et c'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce vendredi. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour.
Êtes-vous de ceux qui avaient déjà chanté « Thanks God, it's Friday »
Non. Non? J'ai probablement chanté en français. Non, c'est une blague.
Aimez-vous les vendredis?
J'aime, oui. Oui, ça nous rapproche du lundi, hein?
Vous êtes drôle, vous. Non, alors, pas de projet excitant pour la fin de semaine, je comprends bien.
Vous avez tout compris.
Bon, et que vous êtes mystérieux. Chronique éphéméride avec vous, mon cher.
Oui, le 19 janvier, c'est la journée internationale du popcorn.
Ah, pour aller au cinéma.
Ben voilà.
Oui, c'est une bonne idée pour, comme, vous, pour moi.
Ben
pour,
oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça que je vais faire toute la fin de semaine.
Il y a tellement de bons films à voir.
Je vais voir une vingtaine de films. Merci, vous avez...
20 films!
Vous avez géré ma fin de semaine.
Un marathon.
Voilà. Alors, cette journée est mentionnée dans un certain nombre de sites sans qu'on sache exactement précisément pourquoi. Mais comme il y a une journée internationale pour tout, ben voilà, pourquoi pas une journée internationale du popcorn.
Est-ce que vous en faites, vous, du popcorn?
Oui, j'en fais tous les jours. Non, c'est pas vrai. 1853, 19 janvier, l'opéra Il Trovatore de Verdi est créé au Théâtre Apollo de Rome. En 1902, naissance du prix Goncourt issu du testament d'Edmond de Goncourt, l'Académie se donne pour tâche de promouvoir de jeunes talents littéraires. En 1903, l'Académie Goncourt est officiellement reconnue par un décret du président du Conseil, Émile Combes. En 1915, dépôt du brevet de Georges Claude pour son invention du tube à néon. 1955, Dwight Eisenhower donne la première conférence de presse d'un président américain à être filmée pour la télévision. C'était en 1955. 19 janvier 1966, Gandhi, Indira Gandhi devient la première femme à occuper le poste de premier ministre de l'Inde. 1975, Radio-Québec assure elle-même sa première diffusion à la télévision. 19 janvier 1978, la dernière de plus de 19 millions de coccinelles fabriquées par Volkswagen sort des lignes de montage de l'usine Demden en Allemagne de l'Ouest.
Sniff, sniff. Il en reste encore sur les routes?
Oui, ben en fait, c'est que la célèbre voiture continuera d'être fabriquée et assemblée en Afrique et en Amérique latine. En 1983, lancement de Lisa par Apple, un des premiers ordinateurs personnels à posséder une souris et une interface graphique. En 2001, le manuscrit original du Voyage au bout de la nuit, le roman le plus connu et le plus lu de Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, publié depuis 1943, a été retrouvé par l'intermédiaire d'un collectionneur anglais et d'un libraire parisien. Il sera vendu aux enchères. En 2001, toujours en Belgique, un amendement à la loi autorise la possession de petites quantités de cannabis. Et en 2001, Bill Clinton reconnaît avoir fait de fausses déclarations dans l'affaire Monica Lewinsky et conclut un arrangement afin d'éviter des poursuites après son départ de la Maison-Blanche. Et pour ce qui est des naissances, un 19 janvier, James Watt, pionnier écossais de la machine à vapeur, l'écrivain américain Edgar Allan Poe, qui est né en 1809, le peintre Paul Cézanne, qui est né en Aix-en-Provence, en 1839, et Janis Joplin, qui est né en 1943, un 19 janvier. Et pour ce qui est des décès, nous avons Denny Doherty, membre du groupe The Mamas and the Papas, qui est décédé en 2007. Carl Perkins, auteur de Blue Suede Shoes, est décédé en 1998, et... Marcel Chaput, l'indépendantiste québécois, qui était né en 1919, est décédé un 19 janvier 1991.
Merci Mathieu, et bonne journée du popcorn.
Merci, vous aussi.
De la presse, arrestation de Guy Ouellet, l'UPAC évoque un complot entourant une nomination. Le député Guy Ouellet aurait été mêlé à un complot impliquant le vol de documents d'enquête sur des dirigeants libéraux et leur fuite dans les médias pour influencer ou négocier une nomination ou en faire le commerce, prétend l'UPAC dans des documents dévoilés hier. Salon de l'auto, tour de piste. La chronique de Francis Vaille, le marché du travail ne boude pas les femmes. Exclusif, insatisfaite des infirmières du CHUM, retourne à Notre-Dame. Sport, Michael Kingsbury, secret de champion. L'unité permanente anticorruption soupçonne le député Guy Wallet d'avoir été mêlé à un complot impliquant le vol de documents d'enquête criminelle sur des dirigeants libéraux et leur fuite stratégique dans les médias pour influencer ou négocier une nomination ou en faire le commerce selon des documents rendus publics hier. Impossible pour l'instant de comprendre le rôle exact attribué par les enquêteurs au député libéral dans cette affaire, si ce n'est que, selon leurs prétentions, il obtient ou tente d'obtenir des informations auprès de policiers ou de membres de l'UPAC afin de les transmettre aux médias. Or, il est dans l'intérêt du public de protéger les enquêtes et les procédures judiciaires, lit-on dans les documents. Les enquêteurs savent que des gens ont dérobé des documents, mais l'étendue du vol est inconnue. Les 7 accusations potentielles considérées par l'UPAC dans ce dossier, abus de confiance, influencer ou négocier une nomination ou en faire le commerce, entrave à la justice, vol, possession de biens criminellement obtenus, fraude et complot. À peine 2 mois après le déménagement de l'hôpital Notre-Dame vers le nouveau CHUM, près d'une trentaine d'infirmières qui avaient fait le saut dans le nouvel hôpital ultra-moderne du centre-ville ont décidé de rentrer au bercail, soit de retourner travailler dans leur vieil hôpital. Pour expliquer ces nombreux transferts, le syndicat des professionnels en soins du CHUM, qui représente les infirmières, montre du doigt la surcharge de travail, due notamment à la grandeur des lieux. Les infirmières marchent beaucoup plus dans un quart de travail et à un nouveau système d'approvisionnement du matériel de soins. Le manque d'accessibilité à des stationnements dans le secteur du nouveau CHUM est aussi un problème, souligne le président du syndicat, Guy Brochu. Beaucoup de nos infirmières vivent sur la rive sud et ont de jeunes enfants. Elles doivent déposer les enfants à la garderie qui ouvre à 7 heures, traverser le pont, se trouver un stationnement et arriver au travail pour 7h45, c'est serré et parfois même impossible, dit Guy Brochu, président du syndicat du CHUM. Autre source d'irritation majeure pour les infirmières selon leur syndicat, les chariots qui servaient de réserve de matériel de soins ont disparu des étages dans le nouveau CHUM. L'approvisionnement se fait désormais grâce à des véhicules autoguidés. Ces infirmières se sont ainsi prévalues d'une entente négociée entre les syndicats et les hôpitaux qui leur permettait de changer d'idée et ainsi retourner à leur hôpital d'origine sans perdre leurs avantages liés à leur ancienneté. Les infirmières ont jusqu'au 28 février pour se prévaloir de cette entente. Le CHUM est en période de recrutement massif, souligne Mme Dufresne, des communications. Ainsi, 282 infirmières ont été embauchées d'avril à décembre dernier, puis 86 autres uniquement ce mois-ci. 50 autres devraient être embauchées en février. Au total, un peu plus de 2000 infirmières y travaillent actuellement, indique la porte-parole du CHUM, Lucie Dufresne. Un nid de poule surdimensionné est devenu une source de ralentissement de la circulation depuis quelques jours au centre-ville de Montréal. Le cratère s'est formé sur la rampe d'accès de l'avenue Vigée-Ouest vers l'autoroute Ville-Marie, non loin de l'hôtel de ville. Sur ce tronçon, la portion droite de la chaussée est en si mauvais état que plusieurs véhicules changent de voie pour l'éviter. Or, pour ce faire, ils doivent empiéter sur la voie voisine, où circulent les voitures qui ont emprunté une autre bretelle surplombant l'autoroute. À l'heure de pointe de fin de journée, un embouteillage devient inévitable. Bien que des témoins aient constaté les dégâts depuis près d'une semaine, le nid de poule était toujours bien visible hier après-midi. En fait, il figure au milieu dans une bande endommagée de quelques dizaines de mètres, où se sont visiblement succédé les réparations au fil du temps. Le ministère des Transports du Québec, responsable de ce tronçon routier de la métropole, dit toutefois être au courant de la récente détérioration de la chaussée dans ce secteur et assure que le trou devrait être colmaté au cours des prochains jours. Il y a énormément de travail à faire. Nos équipes font du rapiessage en continu chaque jour, dit Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec. Opération sauvetage sur le nouveau pont Champlain. Un travailleur a fait une chute sur le chantier du nouveau pont Champlain hier après-midi. Il est tombé à l'intérieur d'un caisson du pilier central au sud du chantier. Selon la Sûreté du Québec, l'homme de 55 ans a subi des blessures mineures. Le service de sécurité incendie précise qu'il a fait une chute de 3 mètres atterrissant sur une plateforme à 35 mètres dans les airs. Le service a déployé sur place les pompiers araignées qui, avec urgence santé, devaient établir une stratégie pour dégager l'ouvrier qui ne pouvait s'extirper seul du lieu de sa chute. Mais c'est finalement l'intervention d'une grue qui a rendu possible son évacuation. L'homme a par la suite été transporté à l'hôpital. La Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail ouvrira une enquête sur cet accident. Un Burger King de l'Alberta a été épinglé par les autorités sanitaires pour avoir logé des travailleurs étrangers dans le restaurant et a depuis retiré tous les matelas. Lors d'une visite inopinée, les inspecteurs ont découvert des matelas et des équipements ménagers pour des travailleurs étrangers, selon le rapport adressé au propriétaire du restaurant Sadiq Holdings. L'agence provinciale a exigé que le propriétaire du restaurant retire tout matelas et meubles associés et qu'il n'y laisse plus dormir ou vivre des employés. Personne ne devrait être traité de manière indigne, a critiqué hier le député local et ministre provincial de l'Environnement Shannon Phillips au quotidien Calgary Herald. La tempête Friedrich a soufflé avec violence sur le nord de l'Europe. Les fortes rafales ont causé la chute d'arbres de même que des accidents de la route qui ont fait 9 victimes, dont 6 en Allemagne. Des camions renversés, des autoroutes paralysées, le scénario s'est reproduit en plusieurs endroits en Allemagne, comme ici, près d'Erfurt et aux Pays-Bas. Là-bas, 66 poids lourds se sont renversés sur les routes au courant de la journée, ce qui constitue un record selon l'Agence de circulation routière. Des images saisissantes publiées dans la presse d'aujourd'hui. Le trafic ferroviaire a complètement été interrompu par endroits. La compagnie de chemin de fer Deutsche Bahn a suspendu toutes ses grandes lignes, une première depuis 2007 alors que la tempête Kirill avait soufflé sur l'Allemagne. Les déplacements à pied n'étaient pas plus faciles. Dans le Land de Thuringe, dans l'est de l'Allemagne, le toit d'une école où se trouvaient des enfants a été arraché par une rafale. Heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. La police italienne a annoncé hier, à moins de 2 mois des élections législatives, le lancement d'un site destiné à permettre aux citoyens de signaler de potentielles fake news ou fausses informations. Sur un site dédié, chaque citoyen italien pourra signaler ce qui lui paraît être une fausse information. Un service de police spécialisé dans la surveillance de l'Internet et des réseaux de télécommunications, la police postale, lancera alors une enquête pour vérifier cette information. Cette enquête prévoit une identification des sources ou encore une recherche d'éventuels démentis, et s'il s'avère que l'information est manifestement fausse, un démenti sera publié sur le site de la police postale et sur les réseaux sociaux, a précisé le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti. Si cette fake news est diffamatoire ou délictuelle, la police postale pourra saisir la justice, a ajouté le ministre.
I'm getting on in years. My phone's on vibrate for you. God knows what all these new drugs do. I guess to have I always end up in tears. My phone's on vibrate for you, but still I never ever feel from you. Pinocchio's now a boy wants to turn back into a toy. So call me, call me in the morning, call me in the night. So phone's on fire for you.
Rufus Wainwright et sa chanson Vibrate.
À la une du Devoir, le thermomètre monte rapidement. Les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la Terre, selon un rapport de l'ONU, ce qui montre un réchauffement rapide de la planète avec toutes les conséquences que cela entraîne, ainsi que peuvent en témoigner les citoyens de la Californie qui ont dû fuir devant d'effrayants incendies l'automne dernier. Un caillou dans le métro. Les portes des voitures Azur ont tendance à se bloquer à cause des abrasifs épandus sur les rues et trottoirs. Élections Canada, l'ancien patron réclame un remplaçant. Marc Meyrand a quitté son poste depuis un an, mais le gouvernement ne lui a toujours pas trouvé de successeur. Cinéma, c'est Bouddha savait ça, avec le vénérable W, Barbet Schroeder, termine sa trilogie du mal. Le film prendra l'affiche le 26 janvier. C'est un article signé François Lévesque. La grande tournée, le premier ministre Justin Trudeau s'est arrêté à Québec jeudi dans le cadre de la tournée qui lui permet d'avoir un contact direct avec les citoyens. La chronique de José Blanchette, Testament pour un enfant de la liberté. Aussi, marijuana survole du cadre légal des provinces et Arabie Saoudite des réformes cosmétiques pour les femmes. Même si elles ne mettent jamais le nez dehors, les voitures de métro Azur souffrent de l'hiver. La Société de transport de Montréal a constaté une recrudescence d'épisodes de portes bloquées depuis le début de la saison froide. Les petites roches utilisées comme abrasifs sur les trottoirs sont à l'origine du problème et le consortium Bombardier-Alstom promet d'apporter les changements nécessaires. Même si les portes des Azur ne se rétractent pas à l'intérieur des parois des voitures, comme c'est le cas pour les MR63 et les MR73, les nouveaux trains ne sont pas épargnés par les problèmes causés par les abrasifs. Les petites roches collées aux bottes des usagers du métro finissent par se disperser dans les stations et dans les trains, entravant le mouvement d'ouverture et de fermeture des portes. Nous avons effectivement constaté depuis le début de l'hiver, qui était précoce cette année, que le problème de portes bloquées arrive plus fréquemment qu'à d'autres moments, dû à l'abondance de gravier, a indiqué au Devoir Isabelle Tremblay, porte-parole de la STM. Le problème avait aussi été détecté l'hiver précédent, mais dans une moindre mesure. Bombardier-Alstom affirme avoir trouvé la solution qui permettra de régler le problème. Une des particularités des portes des voitures Azur, c'est qu'elles sont extrêmement sensibles. Le maximum qu'il peut y avoir d'écart dans la porte, c'est un millimètre. La solution avancée par Bombardier-Alstom consiste à procéder à une modification d'un contrôleur de porte et elle sera mise en application dans les prochaines semaines. On ne retrouvera pas ce problème lors des autres hivers, a assuré M. Lefebvre. Les modifications seront faites progressivement sans impact sur le nombre de voitures en service, a-t-il dit en précisant que les nouveaux trains qui seront livrés à la STM au cours des prochains mois auront déjà fait l'objet des modifications nécessaires. Marc-André Lefebvre estime qu'il est normal que ce type d'événement survienne lors de la mise en service de nouveaux trains. Ces corrections se feront sans coût supplémentaire pour la STM puisque les trains Azur sont encore sous la garantie du constructeur. La STM présentera son budget vendredi, aujourd'hui. Le président du conseil d'administration de la STM, Philippe Schnob, sera à l'Hôtel de Ville vendredi pour présenter le budget 2018 de son organisation devant la Commission des finances. Avec ce budget de 1,4 milliard, la STM prévoit notamment d'augmenter son offre de services dans le métro et d'ajouter 81 400 heures de service dans son réseau d'autobus. Elle procédera aussi au lancement de l'appel d'offres pour l'achat de 300 autobus hybrides supplémentaires, une promesse de la mairesse Valérie Plante lors de la campagne électorale de l'automne dernier. De son côté, la Ville de Montréal a haussé sa contribution au transport en commun de 27,7 millions en 2018. Au procès portant sur le déraillement de train à Lac-Mégantic qui a fait 47 morts, le jury a terminé sa 8e journée de délibération sans remettre au juge la précieuse enveloppe contenant les verdicts. Le jury de 12 personnes ne s'est pas manifesté jeudi, pas plus que la veille. Lundi, il avait posé des questions au juge Gaétan Dumas qui préside le procès et mardi, il s'était déclaré dans l'impasse, incapable de prononcer 3 verdicts unanimes. Si le jury ne réussit pas à s'entendre, le juge peut dissoudre le jury et mettre fin au procès. Québec a confirmé jeudi avoir l'intention de réviser ses directives en matière d'isolement carcéral au lendemain d'un jugement qui a statué que l'isolement préventif prolongé des personnes détenues est inconstitutionnel. Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué mercredi que les lois encadrant l'isolement dans les prisons fédérales vont à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, car elles autorisent et permettent dans les faits un isolement administratif prolongé indéfini. Le dépistage du cancer de la prostate par un dosage de l'APS se fait encore couramment au Québec malgré les avis défavorables qui s'accumulent. Le Collège des médecins du Québec recommandait en 2013 de ne plus l'offrir aux patients. L'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, INES, formulait la même recommandation la semaine dernière, faisant valoir qu'il n'y a aucun avantage au dépistage du cancer de la prostate par le dosage de l'APS en matière de réduction de la mortalité globale et que les interventions qui sont pratiquées à la suite de ce dépistage comportent des risques importants. Après avoir analysé les résultats d'essais cliniques et de méta-analyses synthétisant plusieurs études effectuées selon les bonnes pratiques scientifiques, l'INES n'a relevé aucun avantage au dépistage du cancer de la prostate par le dosage de l'APS, qui signifie l'antigène prostatique spécifique, en matière de réduction de la mortalité globale. Les parents de 13 enfants qui auraient tenu en captivité dans la résidence familiale du sud de la Californie ont plaidé non coupables jeudi aux accusations de torture et de maltraitance portées contre eux. Ces enfants souffrent de malnutrition et de déficience cognitive. Certains ignorent des connaissances de base. Leur taille serait en dessous de la moyenne. Des abus très graves, tant sur le plan physique qu'émotionnel, a lancé le procureur du comté de Riverside, Mike Estrin, en énumérant la longue liste d'accusations déposées contre David Allen Turpin, âgé de 57 ans, et Louise Anna Turpin, âgée de 49 ans. L'homme et la femme restent détenus. Ils seront de retour en cour le 23 février. Les victimes étaient âgées de 2 à 29 ans. Les faits auraient été commis dans le comté de Riverside depuis 2010. Et la journaliste française Sandra Müller, basée aux États-Unis et qui a créé le mot-clic « Balance ton porc » après le scandale Weinstein, est poursuivie en diffamation par l'homme qu'elle a accusé nommément sur Twitter, a-t-elle annoncé jeudi. Éric Brion, que je nomme comme l'auteur des propos dégradants dont j'ai fait l'objet, a finalement changé de stratégie et a décidé contre toute décence de m'amener devant les tribunaux, indique la journaliste sur sa page Facebook.
J'ai mis des pneus à clous. Collé au plafond à cause de la statique. J'monte la garde sur ta chambre à coucher. Tu reviens-tu pour souper? Oh, Tiens-toi sur le calorifère pour survivre à l'hiver. Ah! Tu t'en vas hiberner dans le métro, puis ce sera ta tanière.
Le groupe s'appelle Chasse Pareil et la chanson s'appelle Berceuse pour les oiseaux d'hiver.
En une du Journal de Montréal d'aujourd'hui, enquête sur les fuites médiatiques, Ouellet agaçait l'UPAC. 4 suspects visés, 7 infractions alléguées, comment la police l'a appâté et toujours aucune accusation. Le choc des idées, PQ, le cœur décroche, chronique signée Mario Dumont. Pas de lien entre la tuerie et l'Algérie, Lise Ravary. Et pas besoin d'Amazon, Claude Villeneuve. Finalement, Salon de l'Auto de Montréal, qui a pris son envol hier, électricité et autonomie à l'avant-plan. Une bande criminelle inondait les États-Unis de potes québécois. Un Montréalais vient d'échouer dans sa tentative d'éviter la justice américaine. Leslie Grant vient d'apprendre que l'arrêt Jordan rendu par la Cour suprême afin de réduire les délais judiciaires au Canada ne peut s'appliquer dans le contexte d'une demande d'extradition, comme celle dont il fait l'objet depuis son arrestation en 2014. En rendant cette décision la semaine dernière, le juge Guy Cournoyer a ordonné l'incarcération de l'homme de 38 ans, jusqu'à ce qu'il soit escorté à Albany, dans l'État de New York, où il risque jusqu'à 20 ans de tôle. Grant, qui habitait à Pierrefonds, fut l'une des dernières cibles de l'opération Rideau de fer de la DEA, Drug Enforcement Administration, qui a mené une quinzaine de Québécois devant les tribunaux américains. Ceux-ci ont tous été accusés d'avoir transporté de la drogue ou de l'argent pour une organisation criminelle, qui a inondé la côte est américaine de quantités massives de Québec Gold entre 2006 et 2009. À l'évidence, le rideau de fer à la frontière avait plutôt des allures de passoire. Chaque semaine, ce réseau faisait passer entre 500 et 900 kg de marijuana canadienne dans le nord des États-Unis pour un chiffre d'affaires potentiel d'un milliard sur 4 ans, selon des documents de cour dont le journal a obtenu copie. Une enquête du journal, publiée en février 2015, a établi que la fugitive Elizabeth Barber, 32 ans, qui fut assassinée par balle à la Chine au printemps 2014, était reliée à cette organisation. Son meurtrier court toujours. Ouellet est soupçonné de transmission illégale d'infos. Le député arrêté en octobre aurait permis des fuites aux médias, selon des documents préparés par l'UPAC. C'est ce qu'on apprend dans les affidavits rédigés par l'Unité permanente anticorruption afin d'obtenir la permission de fouiller la résidence du député l'automne dernier. Hier, le juge Serge Champoux de la Cour du Québec a autorisé la publication de certaines portions de ces documents. Ouellet avait été épinglé pour des raisons mystérieuses le 25 octobre 2017 dans le cadre de ses perquisitions, mais 3 mois plus tard, il ne fait toujours l'objet d'aucune accusation criminelle. J'ai les motifs raisonnables et probables de croire que Guy Ouellet obtient ou tente d'obtenir des informations auprès de policiers ou de membres de l'UPAC afin de les transmettre aux médias, écrit le sergent Jean-Frédéric Gagnon de l'UPAC, dans les affidavits rédigés pour soutenir les mandats de perquisition. Hier, une porte-parole de la WIP en chef du gouvernement a affirmé que M. Ouellet restait membre du cabinet libéral à la lumière de ces nouvelles révélations. Rappelons que Guy Ouellet s'était d'abord lui-même exclu du caucus libéral après son arrestation, avant d'être réintégré quelques semaines plus tard. La Ville de Montréal lancera au cours des prochaines semaines une quarantaine de poursuites au civil envers des compagnies d'ex-fonctionnaires et d'ex-politiciens qui auraient pris part à un stratagème de collusion dans l'octroi de contrats publics. Nos sources indiquent que les firmes de génie conseil ont majoritairement remboursé les sommes d'argent qu'elles auraient volées en participant au programme de remboursement volontaire PRV, mis sur pied par le gouvernement en novembre 2015. Ce sont principalement des compagnies de construction qui ont refusé de collaborer et qui seront visées par les poursuites au civil de la Ville afin de récupérer l'argent. D'ex-élus, d'ex-fonctionnaires et d'ex-cadres de la Ville feront aussi l'objet de poursuites, a appris le journal. La société Saint-Jean-Baptiste compte intenter aujourd'hui une poursuite contre le gouvernement Couillard pour le forcer à mettre en œuvre une loi vieille de 16 ans sur l'usage du français par Québec. La loi 104 a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 2002 et impose au gouvernement du Québec et à ses sociétés publiques l'utilisation du français dans toute sa correspondance avec les corporations de la province et les autres gouvernements. Le problème, en 16 ans, aucun gouvernement n'a fixé de date pour sa mise en demeure. Il est grand temps que cette loi entre en vigueur et que des directives claires soient établies pour véritablement faire du français, la langue de l'administration publique au Québec. La poursuite sera déposée au Palais de justice de Montréal en matinée. Le règlement qui permet aux inspecteurs de la STM de remettre des amendes à ses clients qui ont jeté leur titre de transport pendant leur trajet respecte la Constitution, a tranché la Cour supérieure du Québec. Deux dispositions d'un règlement de la STM qui oblige ses clients à conserver leur titre de transport tout au long de leur trajet, sous peine de recevoir une amende de plus de 200 $ avec les frais, ne contreviennent pas à la Charte canadienne des droits et libertés, a tranché le juge Guy Cournoyer dans un récent jugement. Les quelques 70 inspecteurs de la STM pourront continuer de procéder à des vérifications aléatoires des titres de transport dans le métro, remettant la même amende à ceux qui ont égaré leur titre de transport avant de sortir d'une station de métro qu'à ceux qui ont passé sans payer. Un test sanguin expérimental a permis de détecter de façon précoce les 8 cancers les plus fréquents dans 70 % des cas en moyenne, donnant l'espoir de dépister la maladie avant même l'apparition de symptômes et d'améliorer ainsi les chances de guérison. L'étude a porté sur plus d'un millier de patients dont la tumeur ne s'était pas encore propagée. Ces résultats pourraient placer l'équipe de chercheurs de l'Université Johns Hopkins à Baltimore, menée par Nicholas Papadopoulos, en tête dans la compétition en cours pour commercialiser un test sanguin universel de dépistage du cancer. Ils ont déjà commencé une autre étude qui pourrait porter au total pendant 5 ans sur 50 000 femmes de 65 à 75 ans n'ayant jamais eu un cancer pour déterminer si ce test peut détecter plus systématiquement la présence d'une tumeur sans aucun symptôme. Les mutations génétiques provoquent la croissance de cellules cancéreuses dont l'ADN se retrouve dans le sang. Avec des thermomètres affichant moins 68 degrés en Iakoutie, moins 56 degrés sur le lac Baïkal, la Sibérie affrontait une vague de froid hier à quelques heures de l'épiphanie orthodoxe pour laquelle des millions de Russes se plongent dans l'eau glacée. La région de Iakoutie en Extrême-Orient russe, les températures ont atteint moins 68 degrés Celsius hier, après moins 65 mercredi, provoquant la fermeture d'une centaine d'écoles. en Sibérie, près d'Irkoutsk, dans la région du lac Baïkal, les habitants et touristes se préparaient à descendre sous les moins 56 degrés aujourd'hui, soit 30 degrés de moins que jeudi. Ces températures extrêmes interviennent alors que les orthodoxes célébraient hier l'épiphanie en plongeant dans des rivières et étant gelés, en souvenir du baptême de Jésus dans le Jourdain.
Quoi de mieux que du Danny Placard pour payer tes billes?
Les journaux régionaux, maintenant dans le quotidien, Laura Lévesque signe un article intitulé « Les jeunes appuient Vincent Duguay ». Si plusieurs adultes ont vertement critiqué la démarche de Vincent Duguay, ce dernier a reçu l'appui de bon nombre d'élèves de différentes écoles secondaires. L'adolescent, rappelons-le, a mis en demeure la commission scolaire des Rives du Saguenay, jugeant la saisie de cellulaire pendant 24 heures comme étant une punition trop abusive et surtout inconstitutionnelle. Mais des polyvalentes de la région vont encore plus loin dans leurs sanctions, ont dénoncé des élèves. En effet, à la polyvalente de Jonquière, le code de vie interdit l'utilisation, mais également le port du cellulaire dans les classes et sur les étages de l'école. À la première offense, l'enseignant saisit le téléphone non pas 24 heures, mais pendant 3 jours. À un second manquement, le cellulaire sera confisqué sur une période de 5 jours ouvrables, et c'est le parent qui doit venir le récupérer en main propre, peut-on lire dans le code de vie publié sur le site de la polyvalente. Si l'élève se fait prendre une troisième fois, le cellulaire est saisi pour une période indéterminée. Plusieurs élèves de mon école, École secondaire Charles Gravel de Chicoutimi-Nord, m'ont félicité pour ma démarche et d'autres m'ont fait part de leurs sanctions encore plus sévères. Certains m'ont même demandé une copie de ma mise en demeure. Je le fais d'ailleurs pour les autres, car je n'ai pas utilisé mon cellulaire dans mes cours et je suis contre son utilisation. C'est un fléau d'ailleurs. Mais à mon avis, les sanctions doivent être adaptées à la réalité d'aujourd'hui et le saisir sur une ou si longue période, c'est trop. Seulement d'obliger les jeunes à mettre leur cellulaire dans des boîtes à l'entrée des classes viendrait régler ce problème. Mais cette façon de faire n'est pas incluse dans le code de vie. C'est à la discrétion des enseignants, donne en exemple Vincent Duguay, estimant que d'autres sanctions peuvent être mises en place plutôt que de saisir l'appareil au-delà des heures de classe. Au moment d'écrire ces lignes, ce dernier n'avait toujours pas reçu de réponse de la part de la direction concernant sa mise en demeure. À 15 ans, l'adolescent a goûté à un jeune âge aux aléas de la vie publique. Vincent Duguay a lu les centaines de commentaires à son sujet, dont plusieurs étaient disgracieux. Je ne peux pas convaincre tout le monde, et je comprends en même temps la réticence des gens. C'est un sujet qui suscite les réactions, car ça concerne l'autorité, les nouvelles technologies. Mais quand je lis que je suis un enfant roi ou que des coups de pied se perdent, je ne réponds pas. D'autres m'ont dit de consacrer mon temps à d'autres causes. Ces gens ne savent justement pas sur quelle autre cause je mets du temps, pointe l'adolescent. En effet, cette mise en demeure n'est pas la première de Vincent Duguay. À l'automne dernier, après avoir été traité différemment que les clients adultes dans le Dolorama du secteur de Chicoutimi-Nord, l'adolescent a fait parvenir une mise en demeure à la compagnie. Les jeunes étaient surveillés et ils ne pouvaient pas magasiner plus que deux personnes à la fois. Ils devaient faire la file à l'entrée du commerce. Quelques semaines après cette mise en demeure, des jeunes ont dénoncé cette même situation dans une succursale de Jonquière, faisant ainsi les manchettes. Vincent Duguay, qui représente également deux autres jeunes dans cette affaire, est en discussion avec Dolorama pour une entente à l'amiable. Son père, Benoît Duguay, s'attendait à de vives réactions sur les réseaux sociaux sur sa démarche concernant la saisie de cellulaire. Il avait d'ailleurs prévenu son fils. On l'avait averti que ça allait susciter des réactions. C'est un sujet polarisé, mais il fait ses démarches parce que c'est un jeune qui n'aime pas les injustices. Et il a vu des élèves qui ont été brimés à la suite de la saisie de leur cellulaire. Il ne veut pas enlever les sanctions. Il souhaite qu'elles soient différentes, insiste M. Duguay, entrepreneur forestier et chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vincent Duguay, donc, un nom à retenir, peut-être un futur avocat ou futur politicien, qui sait? Dans le Nouvelliste, trois rivières attrayantes pour les milléniaux, qu'on appelle aussi les millénarios, mais ici, on parle de milléniaux. Trois rivières semblent avoir tout ce qu'il faut pour attirer la génération des milléniaux à venir s'établir chez elles. C'est du moins ce que laisse entrevoir un classement récemment réalisé par le site Internet Point to Homes, un site canadien qui se spécialise dans le marché immobilier. Sur un total de 85 grandes villes canadiennes qui ont été compilées, Trois-Rivières se classe au 9e rang et au second rang des villes québécoises les plus attrayantes pour les milléniaux derrière Québec. Pour réaliser ce classement, Point to Homes a comparé les villes selon différents critères, à commencer par l'accessibilité du marché immobilier. Sept autres critères étaient également pris en considération, soit le taux de chômage, la qualité de vie, le bas niveau de criminalité, l'accessibilité aux soins de santé, le climat, le niveau d'éducation de sa population, entre parenthèses le pourcentage de la population ayant un baccalauréat ou plus, et finalement le pourcentage de milléniaux habitant déjà dans la ville. Si Québec arrive en tête de liste du classement, aucune autre ville québécoise outre Trois-Rivières n'a pu se faufiler dans le top 10. Par ailleurs, les grandes villes canadiennes, dont Toronto, Montréal ou Calgary, ne se retrouvent pas non plus dans le top 10. Ce haut du classement est d'ailleurs occupé par au moins 7 villes de moins de 500 000 habitants, remarque Point to Homes dans son analyse. outre un emploi payant et une belle maison, la génération des milléniaux recherche un bon équilibre entre le travail et la vie familiale et sociale, indique Point Two Homes. Ils veulent des activités intéressantes, des occasions de socialiser avec d'autres personnes de leur génération, des ressources éco-responsables et des villes à la fois sécuritaires et animées, analyse-t-on. Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, ne cachait pas sa joie de voir la ville avoir fait aussi bonne figure à ce classement. Lui qui ne se fait jamais prier pour rappeler les investissements réalisés afin de satisfaire la jeune génération. Je le dis tout le temps, la nouvelle génération recherche un emploi, mais aussi une qualité de vie. Nous nous sommes positionnés depuis 2002 en ce sens, pour investir en fonction du futur, d'attirer les jeunes familles chez nous. Nous avons investi dans les terrains de jeu, les infrastructures sportives, la culture. Trois-Rivières est devenue une ville attrayante grâce à une vision et des investissements pour y parvenir, croit le premier magistrat. Et je poursuis. La présence d'institutions postsecondaires de haut niveau aide également à la rétention des jeunes à Trois-Rivières, croit Yves Lévesque. Les jeunes viennent étudier chez nous 2, 3 ou 4 ans, mais constatent à quel point il fait bon vivre ici. Alors, ils choisissent de demeurer. Ça, je le vois tous les jours sur le terrain. Et c'est de plus en plus fort d'année en année, ajoute-t-il, disant miser sur cet argument pour attirer des entreprises en sol trifluvien lorsque ces dernières sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. À la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, on constate aussi une recrudescence des jeunes entrepreneurs et on accueille avec grande joie ce classement. C'est vraiment une belle surprise. Il est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs s'établir ici et se lancer en affaires. On n'a qu'à voir les nominations au dernier gala Radisson de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. On enregistre un nombre record de jeunes entrepreneurs ayant posé leur candidature et ayant reçu une nomination, constate la présidente de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, Joanie Bournival. Cette dernière, qui agit également à titre de responsable des communications pour Trois-Rivières Centre, la Société de développement commercial de Trois-Rivières, remarque que les outils qui sont mis en place à l'organisme, dont la trousse de bienvenue aux entrepreneurs, visent exactement ce genre de clientèle. D'ailleurs, de nombreux commerces et places d'affaires ont vu le jour au centre-ville dans les dernières années, pilotés par des jeunes que l'on associe à la génération des milléniaux. Nous allons assurément nous servir de ce palmarès dans nos futures activités de prospection, clame-t-elle. Alors, classement des villes canadiennes et québécoises les plus attirantes pour les milléniaux, 1. Québec, 2. Victoria, Guelph en troisième place, Halifax, Ottawa, Saanich en Colombie-Britannique, Waterloo en Ontario, Kingston en Ontario, Trois-Rivières en neuvième place et Vancouver au dixième rang. Villes québécoises, 12. Lévis, 13. Gatineau, 16. Sherbrooke, 28e rang, Saguenay, 32. Brossard, 38. Montréal, 50. Repentigny, 54e Laval, 58 Terrebonne, 62 Saint-Jean-sur-Richelieu, 65e Place Longueuil et 71 Place Drummondville. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis avec vous jusqu'à 11h30. À venir, les actualités culturelles et le segment libre en ce beau vendredi tout doux, hein, ça fait du bien. Ça n'a pas rapport avec les températures sibériennes dont je parlais un petit peu plus tôt. Alors, je vous souhaite un agréable vendredi et un grand merci d'écouter Canal M de Vues et Voix.
I won't be scared. She's wearing flowers, not snakes up in her hair tonight. And love, we've been around before. We washed up on the old shore, but it's new tonight. It's only light, she said, but we are liars to be free. We'll steal a light to see. The hour falls, we fall to dance.
the sirens and the marching bands sing. It's nothing but chance tonight. A billion ones and many a few, and everyone I never knew, they're here tonight. It's only light we say, but we realize to be free.
Être de mauvaise humeur après ça. La chanson s'appelle Still the Light et le groupe s'appelle The Cat Empire.
Et je commence avec la lecture de la critique de l'œuvre de Catherine-Anne Toupin, pièce de théâtre qui a pris l'affiche cette semaine à la Licorne, La Meute, donc un texte de Catherine-Anne Toupin, mise en scène par Marc Beaupré, production du Théâtre de la Manufacture, et s'est présentée jusqu'au 17 février. Disant que Catherine-Anne Toupin nous tenait en haleine, c'est un texte signé Christian Saint-Pierre dans Le Devoir. Deux décennies à espérer que l'auteur d'à présent jette à nouveau ses lumières dans les abîmes de l'âme humaine. Commençons donc par affirmer que l'attente n'aura pas été vaine. La Meute est un texte bouleversant, courageux, percutant, en même temps que d'une finesse admirable. Pour nous entraîner sur le territoire de la persécution à la rencontre d'une violence inouïe, tout en évitant la caricature, le manichéisme qui l'attendait pourtant à chaque détour, l'auteur s'est assuré que le portrait d'ensemble présente les nuances nécessaires, que ses personnages soient pétris de paradoxes, que ses situations soient d'une complexité vertigineuse, que le récit ne cesse d'emprunter des voies nouvelles. Quand il s'agit de nous tirer le tapis sous les pieds, Catherine-Anne Toupin n'a pas son pareil. Après avoir conduit toute la nuit, Sophie, interprétée par Catherine-Anne Toupin, débarque chez Martin, Guillaume Cyr, époustouflant, et sa tante Louise, Lise Roy, dans un coin reculé, pour louer une chambre. La jeune femme est dans un piteux état. Mise à pied par son employeur, hantée par des paroles terriblement injurieuses, elle a besoin de prendre un peu de recul. En quelques jours, l'alcool aidant, Sophie va se lier à ses hôtes d'une manière totalement inattendue. On pourrait difficilement en dire plus sur l'intrigue sans en dire trop. On se contentera donc d'affirmer qu'elle est implacable, parsemée de renversements ahurissants. Il y a beaucoup à parier que les dramaturges québécois ne font que commencer à dépeindre les dérives de l'Internet, ces atteintes à la vie privée dont la perversité ne cesse de croître. Trolling, flaming, doxing, fat-shaming et revenge porn, le cyber-harcèlement prend des formes et des proportions qui glacent le sang. Avec des mots justes et des images fortes, des gestes terriblement crédibles et des situations souvent insoutenables, des personnages abjects sans être monstrueux, Catherine-Anne Toupin nous oblige à respirer l'écœurant remugle que dégagent les bas-fonds du web. Dans cette matière, anxiogène à souhait, Marc Beaupré est comme un poisson dans l'eau, situant les corps dans un espace épuré, froid, mais surtout évocateur, principalement grâce à l'exceptionnelle conception d'éclairage de Julie Basse et Étienne Boucher, le metteur en scène donne naissance à des moments d'apesanteur qui transcendent admirablement le huis clos. S'imposent alors les lignes de force, cette lutte impitoyable entre la cruauté et la vulnérabilité, le bourreau et la victime, le besoin de détruire et celui d'aimer, puis, en fin de compte, l'espoir d'une forme de réparation. Sous la plume de Caroline de Baudinat, le quotidien français Libération consacrait lundi un long article à la comédienne Suzanne Clément qui enfile les tournages cinématographiques et s'apprête à aménager dans le 11e arrondissement de Paris. Après Le sens de la fête récemment sorti au Québec, les cinéphiles français peuvent maintenant voir la comédienne dans Le rire de ma mère, premier long métrage de Pascal Ralit et Colombe Savignac. Elle y défend le rôle féminin principal aux côtés de Pascal Demolon. Et selon Allociné, la critique est en général fort élogieuse. Sous le titre « Suzanne Clément, elle déménage », l'article revient sur sa première rencontre avec Xavier Dolan, sur ses premiers pas dans une série télé à 12 ans, son enfance à Boucherville et le fait qu'elle n'aime pas parler de ses amours ou de sa vie privée. « Je suis restée assez proche, en moins sage, de l'enfant que j'étais », dit-elle dans l'entrevue. « Je suis confiante envers l'autre, plus que fermée. » Mais que je donne l'image de quelqu'un d'accessible ne signifie pas pour autant que je le suis. Les longs métrages La résurrection d'Hassan par Carlo Guillermo Proto, Le problème d'infiltration réalisé par Robert Morin, Les affamés, Robin Aubert, Mes nuits feront écho, Sophie Goyette et Tadoussac de Martin Laroche, sont les finalistes de la 7e édition du prix collégial du cinéma québécois. Créé pour inciter les jeunes à voir davantage de cinéma québécois, ce prix permet aussi à des centaines de jeunes de débattre de la qualité de chaque film au cours de rencontres tenues dans 53 cégeps, puis dans un forum national. Fidèle à l'événement depuis ses débuts, la comédienne et cinéaste Micheline Langteau en sera de nouveau la marraine. La sélection des 5 films finalistes est d'abord faite par un comité d'experts. Le film « Lauréat » sera dévoilé le 24 mars. Le chiffre du jour, c'est dans la presse, 1000. Depuis son lancement en 2004, le Wapikoni Mobile, le studio ambulant de formation et de création audiovisuelle, a accueilli plus de 4500 participants de 25 nations autochtones du Canada et d'ailleurs. À la suite de cet immense travail, on compte une collection d'œuvres qui dépasse maintenant les 1000 titres, a fait savoir l'organisme cette semaine. Pour célébrer l'événement, Le Wapikoni mettra en ligne sur sa page Facebook chaque mardi jusqu'au 17 avril une sélection de films issus des ateliers. Le quotidien britannique The Guardian vient de faire une grosse prise. L'écrivaine italienne Elena Ferrante, un pseudonyme, tiendra une chronique hebdomadaire dans le cahier week-end du journal. On dit que l'auteur de L'Amie prodigieuse abordera un vaste éventail de sujets d'un point de vue personnel. La sexualité, le vieillissement et, pour sa première collaboration, le premier amour. Ses chroniques, rédigées en italien, seront traduites par sa traductrice habituelle, Anne Goldstein. Rappelons que depuis lundi, The Guardian a subi une importante refonte graphique en plus de passer du format berlinois au format tabloïd. L'auteur britannique Peter Mayle, dont le déménagement en France au mi-temps de sa vie lui a inspiré le livre à succès « Une année en Provence », est mort hier à l'âge de 78 ans. Le publicitaire devenu écrivain s'est éteint dans son pays d'adoption qui a si souvent servi de décor à ses livres. Dans un portrait publié en 2007, Sonia Sarfati racontait la réaction peu enthousiaste de l'éditeur devant le premier livre de Peter Mayle. « Nous en imprimerons 3000 exemplaires. Il y aura certainement des retours. Je te ferai un bon prix si tu veux en acheter des copies avant que j'envoie le reste au pilonnage. » Le récit « Une année en Provence » s'est vendu à des millions d'exemplaires en plus d'une dizaine de langues depuis sa sortie en 1989. Lancé en 2004, son roman « A Good Year » a été adapté au cinéma 2 ans plus tard par Ridley Scott. Bientôt un album, 2 ans après son premier album de chansons originales « Lis-moi loup », Safia Nolin a enfin un nouveau bouquet de chansons en main, point de suspension, pas plus joyeuse que dans le premier. Elle entre en studio le mois prochain pour enregistrer des chansons de plus en plus tristes qui devraient être lancées l'automne prochain. Avec « Reprise », volume 1, il s'agira du 3e album de la chanteuse. Il sera co-réalisé par elle-même, son complice de longue date et guitariste Joseph Marchand, ainsi que le réalisateur de Limoilou, Philippe Brault. « Je peaufine mes trucs en ce moment et ensuite je pars enregistrer », confirme-t-elle. Ses chansons sont inspirées de sa vie des 2 dernières années, du tumulte et des sentiments contradictoires qu'elle a vécu. C'est difficile à vivre et c'est difficile de se confier quand ça va mal parce que les gens disent que tu es donc bien chanceuse de vivre tout ça. C'est plein d'émotions étranges et j'ai puisé là-dedans. Il y a un peu plus d'un an, Safia Nolin était allée en résidence d'écriture à Banff, en Alberta, dans un centre d'art. De là, j'ai écrit beaucoup de chansons. L'album « Lis-moi loup » a connu un beau succès et lui a ouvert les portes de l'industrie. De quoi mettre un stress supplémentaire sur la création. C'est sûr que oui, j'ai de la pression, même si je pense que je n'en ai pas. Mais j'essaie de me détacher de ça et de faire de la musique pour moi, encore une fois, et ne pas avoir d'attente quand je vais le sortir. L'album devrait être lancé cet automne et on vous offre un extrait de son album Reprise, volume 1. Avec les Sœurs Boulay, c'est bien cela, Mathieu?
Les Chats Sauvages.
Ah, les Chats Sauvages! Elle chante la chanson seule? Oui?
Je vais vérifier.
D'accord, bon, on va l'écouter. Oui.
On apprivoise pas les chats sauvages. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer, jamais chercher à les garder. Tout doucement, je veux voyager. En jasant d'amour.
liberté. On n'emprisonne pas les cœurs volages, pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre. Faut les laisser aller toujours sans chercher à comprendre. Marche seul et non qu'un seul langage, celui de l'amour, celui de la vie. Et chante pour toi si t'en as envie.
C'est une très belle chanson. C'était pas celle que je voulais jouer. C'était évidemment les Sœurs Boulay qui nous chantaient Les Chats Sauvages. Dans mon empressement, évidemment, je me suis gouré. Mais la semaine prochaine, on vous garantit qu'on va vous faire jouer le duo des Sœurs Boulay avec Safia Nolin.
Oui, alors c'est ça. Hein, c'est un autre succès des années 90. Puis c'était très agréable. Mais la semaine prochaine, c'est L'ombre et la lumière. Hein, c'est la chanson de Marie-Carmen.
Je pense que oui, mais là, je ne m'avance plus avant de...
Oui, mais j'ai fait une vérification, puis je peux vous le confirmer.
Vous êtes bien aimable.
Alors Mathieu, on va écouter ça avec vous jeudi ou vendredi prochain.
Exact. OK.
Il faut le retenir, là.
Oui, je vais l'écrire.
Alors, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, des dizaines d'enfants réfugiés ont besoin d'effets secondaires pour amorcer ce segment libre. Leur famille compte sur des bénévoles pour fournir sacs, crayons et manteaux. Les deux plus grosses commissions scolaires de Montréal doivent mettre les bouchées doubles depuis 2 semaines pour accueillir des centaines d'enfants de demandeurs d'asile fraîchement arrivés au Québec. C'est une année scolaire exceptionnelle en termes de nombre, révèle Alain Perron, porte-parole de la commission scolaire de Montréal, où 3707 élèves migrants ont été accueillis depuis septembre, dont 270 en janvier. C'est 1200 de plus que l'année scolaire précédente. Selon lui, cette affluence peut entraîner des délais de quelques jours avant que les nouveaux élèves puissent intégrer les classes. Même son de cloche du côté de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui compte 439 nouveaux enfants migrants depuis septembre, dont une quinzaine en janvier. Sa porte-parole, Gina Guilmette, parle d'une année record. Le gouvernement fédéral dit avoir traité plus de 22 000 demandes d'asile au Québec en 2017, soit au moins 4 fois plus qu'en 2016. Plusieurs de ces familles n'ont pas les moyens d'acheter les effets secondaires et habits de neige à leurs enfants. Un triste constat qui a poussé l'enseignante Rachel Schugart et d'autres bénévoles à lancer un cri du cœur sur les réseaux sociaux la semaine dernière afin de trouver des fournitures usagées ou neuves. L'aide n'a pas tardé. En une semaine, l'appartement de Mme Schugart, dans le quartier Parc Extension, s'est transformé en quartier général et lieu de collecte de dons. Le salon fait office de mini-entrepôt, cartable au sol, boîte de tuques et de mitaines, manteaux divers sur le sofa et crayons neufs sur la petite table. « Mon mari trouve que le salon est très encombré », lance-t-elle en riant. « Je ne sais pas quand tout ça prendra fin. » Jusqu'à présent, la bénévole et ses acolytes ont remis 50 sacs d'école ainsi que des habits de neige. Néanmoins, la liste ne cesse de s'allonger. J'ai reçu plusieurs messages de parents sans ressources. Une centaine d'enfants ont besoin de fournitures. Trois gamins n'ont pas de pantalon de neige et avec ce froid, ils ne peuvent pas sortir dehors, explique l'enseignante qui partage son temps entre la maison, l'école et le bénévolat. Nous avons appris par les médias, entre autres, qu'il y a des citoyens et du personnel qui mettent sur pied des collectes. C'est un très beau geste de solidarité, souligne Gina Guillemette. Plus souvent qu'à son tour, Mme Schugart doit se déplacer avec sa petite voiture pour collecter et distribuer les dons, en suivant une liste détaillée des besoins de chaque famille. Dans les petits appartements peu meublés où elle est entrée en compagnie du Journal de Montréal, elle était accueillie comme une reine, accolade, sourire, bec sur les joues et remerciements à la tonne. Les parents et les enfants se confiaient à elle comme à une vieille amie. C'est difficile de repartir de zéro, mais les gens d'ici sont formidables, dit en anglais Lola, une Nigériane qui a vécu aux États-Unis avant de traverser la frontière canadienne à la fin novembre avec sa famille. Les Québécois veulent qu'on se sente comme chez nous et de notre côté, on veut s'intégrer rapidement. Parler français et se trouver du travail, c'est important, ajoute-t-elle. Florence Olabizi est dans la même situation que Lola. Elle est arrivée au Canada avec son mari et ses deux enfants il y a 3 mois. Sa gratitude se lit sur son visage lorsque ses deux enfants essaient manteau, tuque et foulard. Ils vont pouvoir commencer l'école comme tous les autres. « Que Dieu bénisse les Canadiens », lance-t-elle avant de serrer chaleureusement la main de Mme Schugart. Ici et là, c'est le cahier week-end du devoir, des suggestions de sortie pour la fin de semaine. On vous parlait jeudi de la blogueuse française Emma de passage au Québec, alors que paraît tout juste le deuxième tome de sa série BD « Un autre regard ». Si son concept de charge mentale vous intéresse, elle discutera de cela et d'autres thèmes abordés sur son blog et dans ses dessins. Maternité, féminisme, travail, société, à la librairie Le Port de Tête, qui organise une discussion publique avec la dessinatrice. Marie-Lise Hamelin, elle-même auteure de l'essai « Maternité, la face cachée du sexisme », fera l'animation. Comme il y aura sans doute bien du monde, il est impératif d'arriver tôt. C'est aujourd'hui de 18h à 20h30 au 269 avenue du Mont-Royal-Est, entrée libre avec collation. Enfin, il fait plus doux. Voilà un cadre de choix pour profiter de la neige fraîche au Parc national des îles de Boucherville qui ouvre à la randonnée des sentiers illuminés à la lanterne, des sentiers de 2 km idéales pour les familles et de 4 km. On peut partir seul avec ses raquettes ou moyennant un supplément en visite guidée avec un garde-parc naturaliste qui expliquera comment la fonte se prépare à l'hiver. Les enfants pourront, eux, enquêter pour découvrir qui a bien pu manger le nez de ce pauvre bonhomme hiver. Les samedis 20 janvier, 3, 10 et 24 février, ainsi que le 3 mars entre 16h et 20h au 55 île Sainte-Marguerite à Boucherville, adultes 8,50 $ accès au parc, 12 $ pour la randonnée, comptez 5 $ par activité supplémentaire, tout est gratuit pour les 17 ans et moins. « De samedi au 11 février, la Fête des neiges de Montréal bat son plein tous les samedis de 10h à 20h et tous les dimanches de 10h à 17h. On pourra célébrer les joies de l'hiver en montant à bord d'un bateau de glace, en faisant le grand saut, en nous initiant au traîneau à chiens, en voyant des animations hors du commun. On assistera, dis-je bien, à plusieurs spectacles, dont celui d'Annie Broccoli, demain, 14h, Alex Gaudreau, samedi, 14h aussi, de Sylvain Tremblay et Georges Papafilis, dimanche, pendant l'après-midi. Plus d'une vingtaine d'activités pour toute la famille. On vous invite à consulter le site pour les horaires et l'acropasse www.parquejeandrapeau.com. Et je termine avec jusqu'au 3 février, les jeudis de 19h à 23h et les vendredis et les samedis de 19h30 à minuit 30, les amateurs de musique électronique et de lumière s'en donneront à cœur joie au quai Jacques-Cartier. C'est l'Igloo Fest dans le Vieux Montréal. Je vous invite à profiter de cette fin de semaine qui s'annonce très douce. Pas beaucoup de soleil, mais des températures très agréables pour mettre le nez dehors et même plus. Alors ici, Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Puis merci Mathieu Tessier à la régie, au choix musical. Et puis on se reprend avec Safia Nolin en duo avec les Sœurs Boulay la semaine prochaine. C'est promis! Bon week-end à tous!